Bonsoir. Le Goethe Institut et la Bibliothèque franco-allemande sont très heureux que la librairie Mola nous accueille ici pour Erich Schacke et son livre « L'Allemand qui sauva Bordeaux par amour ». Nous sommes très heureux et nous remercions M. Dominique Lormier de bien vouloir animer le débat et aussi très heureux que Mme Josie Melli ait pu nous rejoindre de Paris. C'est elle qui a traduit le livre et c'est elle qui va lire quelques passages en langue française. Voilà, je vous souhaite une agréable soirée.
Elle faisait régulièrement le même cauchemar atroce. Des hommes traînaient la jeune fille le long de la rue Bouffard, attachée à une corde, telle une chienne qui aurait voulu s'échapper. Les mains liées derrière le dos, elle portait une pancarte autour du cou sur laquelle on lisait « Vendu à l'ennemi ». Arrivée dans la cour de l'hôtel historique de la Lande, elle vit qu'il y avait foule et perçut une rumeur qui enflait, telle une vague menaçant de l'engloutir. Elle commença à trembler de tout son corps. « Putain, Boche !» cria une voix relayée par d'autres, hurlant « Poule à Boche !» Ces mots étaient comme autant d'aiguilles qui la blessaient. Elle avait l'impression d'être clouée à un pilori invisible. Le chef de la résistance fit un geste de la main et la foule se tut. Puis il regarda la jeune femme. « Nous examinerons ton cas avec bienveillance, à condition que tu nous dises la vérité. Es-tu prête à le faire ?» Apeurée, elle acquiesça. Procédons donc à l'interrogatoire. Quel âge as-tu ?
21 ans.
Profession ?
Vendeuse.
Est-il exact que tu as fricoté avec un nazi ?
Désemparée, elle regarda autour d'elle comme si les personnes présentes dans cette cour avaient pu lui être d'un quelconque secours. Mais elle ne lut aucune compassion sur ses visages. Ce tribunal improvisé rappelait une pièce de théâtre offerte aux spectateurs. À l'évidence, la plupart d'entre eux avaient déjà rendu leur verdict. «
Elle a couché avec ses sales boches !» vociféra une femme. « Alors, ça baisse bien, hein, boche ?»
Le commandant se tourna de nouveau vers elle.
« Que réponds-tu à cette accusation ?»
Un bref instant, la jeune fille ferma les yeux et se demanda. « Mais quel crime ai-je donc commis ? Celui d'aimer ? Un ennemi ? Un boche ? Mais qui s'arroge le droit de juger de ce qu'est l'amour ?» Elle répondit enfin, « Oui, j'avoue que j'aime un soldat allemand, mais l'amour, ce n'est pas un délit. »
« Une poule qui fraye avec les Allemands !» répliqua le commandant avec un sourire glacial. « Et tu n'éprouves aucun regret ?»«
Non, je ne regrette rien, » pensa-t-elle. Un sentiment d'irréalité la submergea un instant. Elle avait l'impression d'être une figurante sur la scène d'un théâtre où se jouait une pièce sur la chasse aux sorcières. Avec le commandant dans le rôle de l'inquisiteur, apparemment investi de tous les droits et de tous les pouvoirs pour la réduire à l'état d'objet docile. « Mon Dieu, je vis au Moyen-Âge dans un pays civilisé. »«
Tondez la salope !» brailla quelqu'un dans l'assistance.
Elle regarda à nouveau cette mère de visage qui reflétait une haine aveugle. Elle comprit qu'elle n'était pas sur les planches et qu'il ne s'agissait pas d'un spectacle, mais de l'amère réalité. Pour ces gens, elle semblait marquée à jamais d'une tare indélébile. Elle fut incapable de réfléchir plus avant, car à ce moment-là, deux résistants arrivèrent derrière elle. L'un la força à s'asseoir sur une chaise, tandis que l'autre l'attrapait par les cheveux. Elle sentit alors la froideur du métal de la tondeuse sur son front. Henriette se réveilla en sueur et regarda vers la fenêtre.
« Tu ne dors pas ?» demanda Heinz.
« J'ai encore fait le même cauchemar, » dit-elle en posant la tête sur son épaule. « Mais pourquoi tu te tortures comme ça ? Essaye de dormir. »
« Je n'y arrive pas. Je ne peux pas m'empêcher de penser à cette femme tondue. Cela aurait pu m'arriver à moi. »
« Nous en avons parlé tant de fois. La guerre et le temps de la haine, c'est fini. Tu n'as plus besoin d'avoir peur. Demain commence une nouvelle vie, mon amour. »
Elle se leva contre lui, sentit sa respiration régulière contre son cou et se souvint des débuts de leur histoire.
Nous allons passer aux questions. Je voulais présenter Eric Schack, qui est journaliste, grand reporter, qui a écrit pas mal d'ouvrages en langue allemande, notamment une histoire des femmes auprès d'Hitler, mais également non seulement des ouvrages historiques, des biographies, mais également aussi des romans. Et là, c'est son premier livre traduit en langue française que j'ai eu l'immense plaisir de préfacer en tant que spécialiste de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. L'histoire m'avait également touché il y a quelques années, puisque j'avais eu l'occasion de la narrer, mais d'une manière succincte, dans quelques ouvrages. Et à ma connaissance, là, c'est le premier livre vraiment qui dresse un portrait, je dirais, complet de l'histoire, à la fois au niveau de la quête amoureuse, de l'histoire amoureuse à travers cette histoire, mais également les éléments historiques qui sont retranscrits d'une manière extrêmement fidèle. J'ai été sensible également à la qualité d'écriture du livre, qui est vraiment écrit dans une écriture très sobre, mais qui va tout à fait à l'essentiel. Et ça m'a profondément touché, car c'est un livre réellement qui reflète l'amitié et la réconciliation entre deux peuples à travers cette figure emblématique de Heinz Thalschmidt, qui deviendra ensuite, par sa naturalisation française, Henri Salmide. Il faut savoir également, il convenait également de rendre hommage aussi à Christian Seguin, qui a été le premier à retranscrire d'une manière totalement fidèle l'histoire à travers le journal Sud-Ouest au début des années 90. Et je crois que c'est suite à cette histoire que Eric Schacquet a décidé donc d'écrire cet ouvrage. Alors, quelles sont les raisons, autres celles-ci, qui vous ont poussé à écrire ce livre ? Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à écrire cet ouvrage ?
Bon, ces histoires, je découvre ces histoires comme M. Lormier a expliqué dans un article de Sud-Ouest, c'était 93. Et voilà, je trouvais que c'était une histoire incroyable et ça vaut plus que juste un article dans un journal. Et je pensais faire un livre. Et grâce à Jutta Bechstein, j'ai pris contact avec Heinz et Henriette et je demandais d'écrire leur histoire. Et je trouve cette histoire, il a deux facettes fascinantes. D'abord, la facette de courage et deuxièmement, l'amour. Le courage, un homme qui se rebellait contre un ordre criminel de Hitler et qui est passé à action. Il a sauté le blockhaus à Bordeaux où il y a toutes les munitions des Allemands stockées. Et il a fait ça tout seul. Et voilà, c'est un courage extraordinaire. Et deuxièmement, c'est un amour très fort, un amour plus fort que la haine et que la guerre. Et on sait maintenant, cette histoire symbolise aussi le destin de plus que 200 000 femmes en France, jeunes femmes, qui auraient eu des relations avec des soldats allemands. Et après la libération, on a traité ces femmes comme des putains de bonches. Et c'est un dramatisme terrible pour ces femmes-là. Et il y avait beaucoup de femmes, après la guerre, ils sont cachés leurs enfants en Bosch. Et il y avait beaucoup d'enfants qui n'ont jamais reconnu leur père.
Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre première rencontre avec Heinz Thalschmidt?
Oui, bon, ça c'était juste après la publication dans le Sud-Ouest. Je suis passé à la maison et à l'époque j'avais une impression qu'il était très blessé, un homme un peu amer parce qu'il se sentait pas bien traité. Il me ramenait dans son cave et son cave il était rempli avec des documents, des papiers, parce qu'il a fait beaucoup de demandes pour être reconnu comme résistant. Et il a demandé Mitterrand et jusqu'à Destin aussi, mais sa demande était refusée. Ça veut dire que c'est lui qui était un résistant avec son cœur allemand, mais il n'y avait personne qui a reconnu ça.
Est-ce que vous pouvez nous parler de la personnalité d'Heinz Thalschmidt, de sa famille et de son parcours?
Bien sûr. Bon, Heinz, il est né juste à la fin de la Première Guerre mondiale. Et c'était une époque partout en Europe, tout était détruit. Il n'y avait pas d'espoir. Et il vivait dans une à Dortmund, c'est la ville de la bière, de Chabron et aussi de football. Et il vivait dans un quartier d'employés. Et son père, c'était un installateur. Et quand Heinz il est allé à l'école avec 14 ans, Hitler il a pris le pouvoir. Et Heinz, il a pris comme des milliers de jeunes la discipline ferme, le salut de Hitler. Et comme milliers de jeunes allemands, il aimait aussi les tambours, les fanfares de Hitler. Et par contre, quand son père il a eu un accident avec 40 ans, 45 ans, Heinz, il décidait, il ne voulait pas prendre l'affaire de son père. Il ne voulait pas travailler comme installateur. Il rêvait partir avec la marine, faire de belles balades. Et voilà, il est entré dans le service de la marine.
Alors, il rentre dans les services de la marine et ensuite, il se retrouve à Bordeaux. Alors, comment s'est passé ce passage où il était d'abord, je crois, en Scandinavie, où il a été gravement blessé durant les opérations en Norvège. Et ensuite, il est muté à Bordeaux. À ce moment-là, donc, il est en contact avec la population civile. Et c'est à ce moment-là qu'on va se dérouler la rencontre avec Henriette. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Oui, il faut dire... il a eu un cauchemar aussi parce qu'il est à bord de Blücher, une croisière lourde. Et ce croisière lourde, il était torpillé dans le fjord d'Oslo. Il y avait 3000 marins à bord. Et Heinz, il s'est jeté dans l'eau froide et il surveillait. Et par contre, il y avait 1000 marins qui trouvaient la mort. Et après, il était au bord des autres bateaux et encore deux fois, il a vécu d'un naufrage. Et il était blessé, les poumons blessés et aussi brûlé par le mazout. Et après, il était envoyé à Bordeaux dans le service de Kriegsmarine à la terre. Et à Bordeaux, il a eu un comportement... tolérant avec des gens parce qu'il travaillait dans le port. Il était responsable pour les hangars A, D, F et D, je crois, oui. Et voilà, il travaille avec des dockers et il a eu une relation correcte avec ce genre-là. Il y avait le bistrot L'Ancre d'Or. Il aimait prendre un verre de rouge, fumer une brune et... aussi discuter avec les Français, parce qu'il parlait un peu français, et on a surmonné lui, le petit français.
Et ensuite, donc, il va rencontrer Henriette, et ça va être le coup de foudre. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette rencontre?
Je crois qu'on peut dire ça, c'était le coup de foudre. Henriette, elle joue un rôle déterminante dans la vie de Heinz, parce que c'était la seule personne à Bordeaux, il a fait confiance et c'était une femme très forte. Elle est toujours une femme très forte parce que maintenant elle a 87 ans. Et c'est elle qui s'occupait de lui avant sa mort. Elle était très malade.
Donc, vous allez peut-être lire un passage justement de la rencontre. Voilà.
Sur sa bicyclette, Henriette approchait du charmant port de la Lune. La mer n'était qu'à une heure de là, et grâce à une importante amplitude des marées de 8 mètres, d'énormes bateaux avaient pu de tout temps remonter la Garonne. Elle se souvenait d'avoir vu passer un jour une superbe goélette. Avec ses grands mâts et ses voiles blanches, elle glissait sur l'eau tel un cygne majestueux, la vieille ville en toile de fond. Mais un autre scénario était désormais à l'ordre du jour et venait troubler la sérénité des lieux. Foin des cygnes blancs, c'était maintenant des frégates et des navires de guerre allemands, leurs coques peintes en gris pour un meilleur camouflage, qui étaient à quai. Henriette remarqua plusieurs canonnières dont les batteries étaient pointées vers le large. Elle déposa sa bicyclette bleue et s'assit sur le rebord du quai. Les cris des mouettes se mêlaient à la rumeur des docks. L'air sentait le sel et l'essence. La marée déferlait, repoussant les masses d'eau du fleuve dont le niveau montait lentement. Des tourbillons se formaient à la surface et le soleil faisait jaillir des étincelles argentées qui dansaient sur l'eau. Fascinée par le phénomène de la marée et le mouvement de reflux du fleuve, Henriette n'entendit pas quelqu'un arriver derrière elle. Une voix masculine et forte l'arracha à ses pensées. « Bonjour, mademoiselle, vous ne pouvez pas rester ici. C'est une zone interdite au public. » Elle se retourna et vit un jeune soldat. Il avait des yeux bleus clairs, était grand, mince, portait des bottes et l'uniforme de la Kriegsmarine. « Un Boche !» se dit-elle en tressaillant. Elle pensa immédiatement à toutes ces affiches appelant depuis le début de l'occupation les citoyens de Bordeaux à résister. Les envahisseurs y étaient toujours représentés comme des hommes de la race des seigneurs, avec leurs yeux bleus et leurs regards carnassiers. Dans le parler populaire, on les traitait de boches depuis la Première Guerre mondiale. Henriette dévisagea le jeune soldat et conclut qu'il devait avoir environ 25 ans. Elle avait du mal à l'imaginer en conquérant prédateur. Mais en ces temps troublés, mieux valait se montrer prudente. De terribles rumeurs circulaient sur la Gestapo dont le quartier général se trouvait au Bouscat. Les délateurs ne manquaient pas et des arrestations avaient lieu presque quotidiennement. Cette simple pensée lui fit froid dans le dos. « Pas peur, mademoiselle !» lui dit gauchement le soldat pour la rassurer. À cet instant seulement, elle se rendit compte qu'il lui parlait en français. Il avait certes l'accent guttural typique des Allemands, mais elle le comprenait. Il lui sourit et elle eut soudain le sentiment qu'elle devait se protéger. De ce sourire, de ses yeux, de ce bleu. Ce bleu qui soudain n'était plus celui des visages ennemis sur les affiches. Elle le regarda encore sans parler. Le silence fut rompu par la sirène d'un bateau. « Pourquoi vous venez ici au port ?» demanda le jeune homme. Ne voulant pas avoir d'ennui, Henriette s'efforça de trouver une réponse. « J'étais venue voir le mascaret. »« Le mascaret ?» répéta-t-il en fronçant les sourcils. « Je ne connais pas ce mot. » Le mascaret, c'est la vague qui se forme dans l'embouchure de la Gironde, puis remonte sur des kilomètres et des kilomètres le fleuve vers l'amont, parfois jusqu'à Bordeaux. Devant son air intéressé, elle poursuivit. La nature produit ce spectacle sous l'effet des forces de la marée, mais il dure seulement quelques minutes. À la marée montante, les masses d'eau venues de l'océan repoussent celles du fleuve, et la Garonne se met, pour ainsi dire, à couler à l'envers, remontant vers sa source. Cela donne deux fois par jour une vague d'environ un mètre de haut. On l'appelle la chanson de la vague. C'est bien la première fois que j'entends parler d'un fleuve qui coule à reculons, commenta le soldat incrédule. Vous ne me croyez pas ? Seulement quand j'aurai vu la vague en question de mes propres yeux. Elle ne devrait plus tarder. Comment le savez-vous ? En consultant les horaires des marées. Il est possible de prévoir avec précision l'arrivée de la vague. Aujourd'hui, ce sera à 11h30. Dans à peine 3 minutes, précisa-t-il en regardant sa montre. Henriette contemplait la Garonne. Le soldat suivit son regard et vit effectivement le courant changer de direction. D'un coup, le fleuve paraissait plus profond. Puis il aperçut la vague et l'entendit se déployer avec un léger mugissement le long des quais. « La chanson de la vague, murmura-t-elle. Vous me croyez maintenant ? Oui, c'est fantastique !» Puis il s'intéressa de nouveau au fleuve dont la surface était maintenant lisse et dans lequel le ciel clair et sans nuages se mirait. Un calme impressionnant régnait. Henriette restait immobile. Elle s'étonnait elle-même d'être assise là, sans broncher, avec ce boche à côté d'elle. « Tu devrais te lever vite fait et partir en courant, » se dit-elle. Mais elle resta tranquillement assise. Quelle belle journée de printemps, pas vrai ? Commenta le soldat en brisant le silence. Même si c'est la guerre. Henriette approuva de la tête et ne bougea toujours pas. Une mouette se posa sur la rambarde du quai et les observa. La jeune fille regarda aussi l'oiseau et remarqua alors que le soldat la détaillait, sans gêne aucune, des pieds à la tête. « Je m'appelle Heinz. » Elle tourna la tête et l'examina à son tour. Il avait fière allure dans son uniforme. Elle voyait seulement maintenant combien les traits de son visage fin étaient burinés par le vent et le soleil. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il en la regardant dans les yeux. « Henriette, » répondit-elle, avant de se mordre les lèvres, regrettant de lui avoir révélé aussi vite son prénom. Il lui tendit la main. Elle ne la frôla que furtivement, puis sentit du bout des doigts la chaleur et la douceur de sa peau. Elle se leva bientôt car elle voulait mettre fin à cette rencontre. « C'est un boche !» se raisonna-t-elle. « Si on me voit ici avec lui, cela ne peut que m'attirer des ennuis. Il faut que je parte !»« Attendez !» Le soldat prit Henriette par le bras. Surprise, elle voulut se dégager, mais elle se sentait étrangement sans défense. « J'aimerais beaucoup vous revoir, » insista-t-il. « J'ai apprécié de parler avec vous, mais nous devrions en rester là. Pourquoi ?»« C'est mieux ainsi. » Il se faisait maintenant face. Il la tenait toujours par le bras. « Pourquoi ne pas me donner votre adresse ?»« Ça ne fera que des complications. Vous travaillez où ?»« Chez un négociant en vin. »« À Bordeaux. Autant chercher une aiguille dans une meule de foie. » « Dites-moi donc, où exactement ?»« À Saint-Michel. » Au moment où elle lui donnait cette information, elle s'affola. « Mon Dieu, pensa-t-elle, pourquoi prendre un tel risque et confier des choses aussi personnelles ?» Alors elle en eut soudain assez. Elle respira un grand coup et se dégagea. Elle enfourcha sa bicyclette et pédala vigoureusement sans se retourner. « Au revoir, mademoiselle. À bientôt » entendit-elle crier derrière elle. Alors seulement, elle réalisa qu'il l'avait hypnotisée. Ses yeux, cette voix, ce visage. Elle s'en était défendue tout ce temps, mais elle aurait tellement aimé en savoir plus sur lui. Elle brûlait de mieux le connaître, sauf qu'elle n'avait rien osé lui demander. Rien que d'y penser, son cœur s'emballa. Sa vie allait en être transformée à jamais.
Alors petit à petit, il y a une idylle qui va se créer et il y a ensuite la réaction des parents. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de comment va se dérouler cette idylle et ensuite la réaction des parents d'Henriette lorsqu'ils apprennent qu'elle est tombée amoureuse d'un soldat allemand ?
Oui, ça c'est étonnant quand même parce que le père d'Henriette, il a fait la Deuxième Guerre mondiale. Il s'est battu contre les Allemands. Bon, il n'a pas eu de bons souvenirs des Allemands, mais par contre, c'est un homme tolérant et il aimait sa fille. Et je crois que ça, c'était plus fort que les souvenirs, les mauvais souvenirs.
Et ensuite, après, ils se retrouvent, donc ils vont même plusieurs fois sur le bassin, je crois. Ils l'amènent en moto. Et véritablement, là, je dirais qu'on assiste véritablement à un déroulement amoureux de plus en plus profond et qui va réellement perdurer par la suite. Donc, comment cette idylle donc, se poursuit par la suite ?
Oui, on a l'impression que c'était une idylle. C'est vrai, ils sont partis à Lacanau en moto. C'était une belle journée. Tout s'est bien passé, mais en vérité, ce n'était pas l'idylle. Entre les deux, c'était l'amour, mais autour d'eux, c'était quand même la guerre. Et à Bordeaux, il y a la Gestapo, le chef de Gestapo, il a créé la terreur. Et c'était toujours une menace pour les deux, parce que c'était un amour quand même interdit.
Alors, on retrouve un contexte amoureux qui rappelle un peu l'adieu aux armes d'Hemingway, c'est-à-dire donc ce lien d'amour et dans un cadre, je dirais, tragique, c'est-à-dire qui est celui de la guerre. Petit à petit, ils vont être rattrapés par les événements, donc par les déroulements de la guerre, et nous sommes en août 44. À ce moment-là, la situation est très compliquée à Bordeaux. Bordeaux est encerclée par les forces armées de la résistance. On craint justement une confrontation où Bordeaux pourrait se transformer en Varsovie, c'est-à-dire des combats extrêmement durs, d'autant plus que tous les maquis du sud-ouest, de Dordogne, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées commencent à remonter vers Bordeaux. À ce moment-là, le débarquement des Alliés en Normandie a enfoncé les lignes allemandes et commence à remonter à Paris, avec notamment en tête la division Leclerc. Il y a eu également aussi le débarquement en Provence des troupes franco-américaines. Donc la garnison allemande à Bordeaux se trouve littéralement encerclée et ne cherche qu'une chose, c'est quitter Bordeaux le plus vite possible. Néanmoins, ils envisagent de détruire toute la zone, je dirais, portuaire, et notamment les quais, avec la conséquence d'entraîner la mort de plus de 3000 personnes. C'est à ce moment-là que le rôle d'Henriette, semble-t-il, va être important dans la décision finale de Stahlschmidt. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, il était une rebelle, on peut dire. C'était quelqu'un qui se rebellait contre un ordre criminel. Le moment, il était là. Avant, c'était un soldat très discipliné, mais il a parlé aussi pas mal avec Henriette. Et elle a forcé Heinz pour avoir de la force de se rebeller contre ce ordre criminel. Et je crois, sans Henriette, peut-être il n'était pas capable de faire ça.
Alors, il a des contacts avec la résistance, qui envisage justement de rentrer en contact avec lui parce que, pour éviter justement la destruction des quais. Et néanmoins, il va se retrouver seul face à cette situation, puisque les forces armées de la résistance, du moins sur Bordeaux, ont été durement touchées par différentes affaires, notamment la fameuse affaire Grand Clément, où il y a eu une multitude d'arrestations. Donc c'est une résistance à Bordeaux qui est en grande partie décimée et qui va énormément compter sur donc Stahlschmidt pour entreprendre la destruction du blocus qui est au bord de la près de la Rura, sur les quais. Et c'est lui véritablement qui va passer à l'action. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, j'ai lu aussi votre livre et vous êtes l'expert pour la résistance. Je crois que c'est un fait que la résistance à l'époque, c'était très faible à Bordeaux. Et ils n'ont pas trouvé un volontaire qui passait à l'action. Et c'était Heinz qui a pris la décision toute seule. La résistance, c'était pas capable de faire ça.
Alors, il passe à l'action, et là, peut-être que vous allez nous lire un passage, juste au moment où il passe à l'action.
Heinz pédalait vers le port. Cette journée d'août avait été torride, et les murs des bâtiments réfléchissaient encore la chaleur emmagasinée. Le soldat roulait à une allure calme. Il sentait encore le parfum de la chevelure d'Henriette, jusqu'à ce que celui-ci fût recouvert par les odeurs de diesel, de peinture à bateau et des eaux boueuses de la Garonne à l'approche du port. Il avait trop chaud dans son uniforme, mais sa tête est envahie par un froid glacial, comme si on lui avait vissé un bandeau d'acier autour du crâne. Il savait que le bunker de la rue Rase était gardé, mais il ignorait combien d'hommes seraient de faction ce soir-là. Deux voix intérieures s'affrontaient. L'une lui disait que ses propres camarades allaient mourir s'il faisait sauter le bunker sans avertissement et qu'il risquait d'être rongé par le remords sa vie durant. L'autre lui murmurait que c'était inévitable, que s'il n'agissait pas, le port serait anéanti et avec lui des milliers de Bordelais innocents. Et pour reprendre les mots de Dupuis, donc c'est un des résistants, ce serait un crime contre l'humanité. Les dockers étaient partis, mais Heinz n'avait pas pu dispenser les sentinelles de leur service. Il aurait été par ailleurs trop risqué de les prévenir de l'explosion. Le soldat se demandait si l'on pouvait mettre en balance la vie de ses camarades et celle de 3000 civils. Non, c'était pure folie que de se livrer à ce genre de calcul. « Mon Dieu, que dois-je faire ?» Mais Heinz réentendit soudain la voix d'Henriette lui disant « Comment peux-tu accepter en ton âme et conscience la mort de 3000 innocents ?» Il le savait maintenant, les dés étaient jetés. Heinz se présenta au poste de garde. Une jeune sentinelle, debout devant la porte, fumait une cigarette. À la vue de son supérieur, l'homme la jeta. « Tout va bien ?» demanda Heinz. « Rien à signaler. »« Bien, je vais faire un tour à l'intérieur pour vérifier qu'il n'y a pas de problème. » « Soyez prudent, Feldwebel. Un volume considérable d'explosifs est stocké là. De quoi faire sauter tout Bordeaux ?»« Je sais, » rétorqua Heinz avant d'aller prendre la clé au poste. Il ouvrit. Son cœur battait si fort qu'il craignait que le garde ne l'entende. La même angoisse que celle ressentie 4 ans auparavant en entendant les tirs à bord du Blücher. Une fois de plus, sa vie ne tenait qu'à un fil. Dans le bunker, tout était calme. Aucun bruit ne pouvait filtrer de l'extérieur. Il regarda le cadran fluorescent de sa montre, un peu plus de 20 heures. Ce n'était plus le moment de reculer. Il avait la gorge nouée et dut avaler plusieurs fois sa salive avant de brancher le détonateur. Ses mains transpiraient en préparant la mise à feu de la charge explosive. On entendit dès lors un léger tic-tac troubler le silence pesant du bunker. À nouveau, son cœur battit à se rompre. Il lui restait désormais un peu moins de 5 minutes pour aller se mettre à l'abri. Garder son calme, surtout ne commettre aucune erreur. Il sortit tranquillement du bunker, en referma la porte et alla en reposer la clé au poste de garde. « Tout va bien, Feldwebel ?»« Oui, parfait. Je vous souhaite encore une excellente soirée. » « Merci, » répondit Heinz en se dirigeant vers sa bicyclette. Il sentait la sueur ruisseler sur sa nuque, son cou, son dos. Il sauta en selle et partit. Lorsqu'il ne fut plus visible depuis le bunker, il pédala à toute allure. L'angoisse lui étreignait la poitrine, il peinait à respirer, ses jambes flageolaient. Il roulait en direction de la rue Calypso où la famille Dupuis était censée le cacher. Il serait enfin en sécurité. Du moins, l'espérait-il. Il avait chronométré auparavant son temps de parcours, 15 minutes environ. Ce quart d'heure lui semblait maintenant une éternité et il avait l'impression de faire du surplace. Les deux hommes de la Gestapo, c'était donc en amont, et il y a deux hommes de la Gestapo qui en fait l'ont filé depuis qu'il est sorti de l'hôtel avec laquelle dans lequel il a eu une dernière rencontre avec Henriette. Les deux hommes de la Gestapo avaient vu Heinz parler brièvement à la sentinelle avant d'entrer dans le bunker. « J'aimerais savoir ce qu'il a à faire là-bas à une heure pareille, une fois son service terminé, » dit le grand maigre. « Il fait apparemment du zèle et il est même prêt à interrompre une partie de jambes en l'air dans l'intérêt du service, » ricana son collègue. « Il est bien bête. » Ils se turent. Voyant ressortir Heinz quelques minutes plus tard et reprendre sa bicyclette, le petit demanda. « Alors, on fait quoi ? On le suit ? Bon, on peut s'épargner ça. » Vaudrait mieux aller inspecter le bunker. On rédigera un rapport sur sa vie amoureuse après. Entendu. Les hommes descendirent de voiture et allèrent voir la sentinelle. Gestapo, dit le grand maigre en montrant sa carte. Le jeune soldat dévisagea les deux agents en civil. Quelque chose ne va pas ?
Juste un contrôle de routine, précisa le grand. Que voulait le Feldwebel qui vient de passer ?
Inspecter le bunker. Vous ignorez sans doute qu'il y a là beaucoup de munitions avec lesquelles on pourrait...
Gardez vos discours pour vous, dit l'agent de la Gestapo en lui coupant la parole. Allez chercher la clé, nous voulons jeter un coup d'œil à l'intérieur.
Le soldat s'exécuta. Il suivit du regard les deux hommes qui ouvraient la porte. À cet instant précis, il perçut une lumière aveuglante et sentit un souffle brûlant venant du bâtiment. Puis, plus rien. Heinz arrivait à la hauteur du jardin public lorsque sa chaîne de vélo sauta. Au même moment, un éclair déchira le ciel, puis une violente détonation retentit. Toute la ville sembla trembler sur ses fondements.
Alors nous sommes le 22 août 1944, au moment justement de cette explosion. Et effectivement, Heinz Thalschmidt était étroitement surveillé par la Gestapo. Les Allemands avaient remarqué qu'il avait des contacts fréquents avec les Français locaux. Et petit à petit, il y a eu des soupçons qui n'ont cessé de s'accroître, si bien que l'un des chefs de la Gestapo, tristement célèbre à Bordeaux, Frédéric William Dose, va commencer à vouloir enquêter sur lui. Il va d'abord voir son livret militaire et voir en lui justement un soldat allemand exemplaire. Donc, je dirais, ses soupçons vont avoir tendance à s'appesantir. Mais petit à petit, de nouveau, il a deux agents, justement, ceux qui vont laisser leur vie à l'intérieur du blocos, qui vont l'étroitement surveiller. Si bien que Stahlschmidt est dans une situation extrêmement compliquée. Il risque à tout moment d'être surpris et du fait justement de ces Allemands qu'il surveille. Finalement, il entreprend l'action, donc qui a été narrée par ma voisine, et il doit être pris ensuite en charge par la résistance. Donc, il va se réfugier d'abord chez William Dupuis et ensuite avec la famille Moga, qui va le protéger. Alors, vous pouvez peut-être nous parler un petit peu de cette famille. Bien connu à Bordeaux, notamment dans le milieu du rugby avec Bègles, oui, mais également par la suite.
Oui, c'est ça. C'est une famille très connue à Bordeaux, une famille de joueurs de rugby. Et c'est aussi une famille qui s'est engagée dans la résistance. André Moga, c'était le chef à Bègles. Et la mère de Moga, elle a aussi caché quelque temps Chabon Delmas devant les griffes de la Gestapo. Et Bo Heinz, il était pour eux comme un cinquième frère. Et André Moga, juste avant la mort, il a encore expliqué à un journaliste que Heinz, c'était son cinquième frère, c'était un homme absolu, correct, qui cherchait ni des titres, ni l'argent. Et il a dit aussi, pour moi, c'était le premier partisan. Voilà.
Oui, alors il y a le passage, justement, qui est dans la préface que j'ai donnée au livre, et j'ai voulu citer, justement, André Moga, quelques jours avant sa mort. C'est une citation d'ailleurs qui avait été présentée une première fois par Christian Seguin lorsqu'il a écrit l'article retentissant dans Sud-Est Dimanche au début des années 90. Donc, juste avant de mourir, le 22 décembre 1992, André Moga avait déclaré « Heinz était chez nous le cinquième frère. Conscient qu'il avait défendu une cause juste, il exprimait des idées nobles. » C'était un homme déterminé, complètement désintéressé. Il ne cherchait pas de titre ou d'argent. Un jour, il a choisi le parti de l'humanité et les deux camps l'ont rejeté. Ce fut pour moi le premier partisan. Alors effectivement, les deux camps vont le rejeter d'abord parce que durant plusieurs années, Heinz Stahlschmidt, qui va être naturalisé français sous le nom d'Henri Salmide et qui va travailler au port autonome de Bordeaux, va se trouver sous la coupe d'un officier des sapeurs-pompiers qui était Saldou et qui va vouloir bien sûr s'approprier le fait d'armes du fait que lui-même était lié à la résistance. Donc on va faire croire pendant assez longtemps que c'était finalement une action qui avait été menée par la résistance, de même que la Gestapo, a l'on cru également que c'était la résistance qui avait mené cette action. D'où ensuite l'entretien qui a eu lieu entre le commandant Fifi Rougès, qui commandait des unités de la résistance de la région, et le capitaine de corvette allemand Kunenmann, où il y a eu un accord assez étonnant, c'est peut-être un des cas uniques en France, où il y a eu un accord entre la résistance et les Allemands, parce que généralement les nazis ne reconnaissaient pas les résistants, ils étaient traités comme terroristes. Or, il y a eu ce cas justement lié justement à l'action de Stahlschmidt, puisque les Allemands sont persuadés que c'est la résistance qui a mené cette action. Et ils entreprennent donc de conclure un accord, c'est-à-dire que les Allemands quitteraient le port de Bordeaux sans que les forces FFI et FTP qui encerclent Bordeaux mènent une action offensive, puisqu'il y avait tous les maquis du sud-ouest qui remontaient vers Bordeaux. Alors, il y avait dans la ville même à peu près 9000 soldats allemands pour 3000 résistants bordelais. Mais si on compte les unités de la résistance des maquis qui venaient de tout le sud-est, il y avait à peu près 30 000 maquisards venant notamment de Dordogne, qui était une région où il y avait beaucoup de maquis, également le Limousin, et tous ces maquis convergeaient donc vers Bordeaux. Donc, on aurait véritablement assisté à une tragédie au sein de Bordeaux. C'est-à-dire que les Allemands se seraient enfermés dans la ville, et ils se seraient défendus, puisqu'ils avaient un armement lourd assez incroyable, important, conséquent, et des unités FFI qui auraient attaqué frontalement et il y aurait eu énormément de destruction au sein de la ville. Or, suite à l'action de Stahlschmidt, justement, les Allemands vont avoir tendance à surévaluer, je dirais, la puissance de la résistance bordelaise. Et ils vont vouloir entreprendre, justement, donc, des négociations qui vont être conclues cours du 30 juillet à Bordeaux entre le capitaine de corvette allemand Kunenmann et le commandant Effifi Rougès, et qui vont aboutir au départ des Allemands sans destruction de la ville. Néanmoins, les Allemands ne pouvaient plus détruire les quais et le port, puisque les amorces se trouvaient entreposées à l'intérieur du blockhaus, qui avait été justement détruit par Heinz Stahlschmidt. Donc on peut dire que le rôle de Stahlschmidt a été déterminant dans la sauvegarde du port de Bordeaux. Il avait réellement sauvé la vie de plus de 3000 Bordelais. Puisque si les Allemands avaient envisagé de mener l'action justement de destruction des quais, et il y avait bien sûr impossibilité de faire évacuer la population pour ne pas alerter soit les alliés ou la résistance. Donc les personnes qui se trouvaient entreposées sur les quais, sur plusieurs kilomètres, auraient été certainement touchées par les souffles des explosions et certainement auraient été tuées ou blessées. Donc à partir de ce moment-là, Stahlschmidt va être pris en charge par la résistance, puis ensuite il travaille au port autonome de Bordeaux. Il se trouve sous la coupe du commandant Saldoux, qui est un homme également lié à la résistance. Il a été officier de la résistance, mais il a également aussi une certaine haine vis-à-vis des Allemands, et il a du mal à admettre que ce soit un Allemand finalement qui ait mené cette action. Et pendant très longtemps, Stahlschmidt, qui va être sous les ordres de Saldoux, sera relégué à des postes secondaires. Il ne retrouvera pas le grade qu'il avait eu dans la Kriegsmarine au sein des sapeurs-pompiers. Il aura pendant très longtemps un salaire assez misérable. On ne lui redonnera pas de titre, etc. Il aura énormément de difficultés à monter dans les échelons. Alors qu'il convient également de rappeler qu'il a pris une part active au moment du fameux incendie en 1947 au sud de Bordeaux, qui avait failli toucher la ville, où ont péri une cinquantaine de sapeurs-pompiers. Henri Salmin, naturalisé français, donc se trouvait aux premières loges. Il aurait eu le droit également aussi à ce moment-là à des décorations. Il faudra finalement attendre l'article de Christian Seguin, l'article retentissant de Christian Seguin, au début des années 90, donc l'Allemand qui a sauvé le port de Bordeaux, dans Sud-Ouest Dimanche, qui avait fait tout un dossier, pour que Jacques Chaban-Delmas finalement reconnaisse qu'il a eu un rôle important. Il lui fera avoir la médaille de la ville de Bordeaux, mais il faudra encore, je dirais, batailler pendant très longtemps pour que finalement il ait une reconnaissance officielle de la résistance française et des anciens combattants français par l'entremise du président des combattants volontaires de la résistance, Claude-Adrien Tisnay, qui était lui-même un ancien résistant de la première heure, qui avait ensuite rejoint l'armée de l'âtre en Afrique du Nord, où il a participé au débarquement de Provence, donc un personnage, je dirais, haut en couleur pour l'héroïsme. Il était d'ailleurs dans les bataillons de pionniers chargés de déminer les plages, donc il se trouvait aux premières loges. Donc très vite s'est créé un lien d'amitié entre lui et cet Allemand, donc entre un ancien résistant et un homme des forces françaises libres, donc. Et du fait d'une estime réciproque venant du courage et de l'héroïsme. Et Claude-Adrien Tisnay fera finalement obtenir à Henri Salmide la décoration de la Légion d'honneur, qui sera véritablement sa consécration d'une reconnaissance officielle des autorités françaises de l'action qu'il avait menée. Mais il aura fallu attendre plus de 40 ans pour que cette reconnaissance officielle vienne. Donc bien sûr, Henri Stahlschmidt avait une profonde amertume, mais je me rappelle personnellement, lorsque je l'ai rencontré, que c'était un homme profondément blessé, avant bien sûr qu'il y ait justement ses reconnaissances. Et peut-être vous pouvez nous parler justement de cette situation, ou d'essayer de nous présenter la personnalité de cet homme qui avait été justement profondément blessé par l'ingratitude venant des Bordelais à son sujet.
Oui, je crois aussi qu'il était très blessé. Et c'est quand même grâce à Henriette, il a passé ce moment-là. Et quand je racontais lui la dernière fois, je trouvais qu'il était beaucoup mieux. Il était heureux parce que maintenant, il était reconnu à Bordeaux, même en France, que c'était lui qui a sauvé Bordeaux. Et j'ai vu lui la dernière fois, c'était quelques semaines avant sa mort. Il était très malade. Et on a parlé encore, et il m'a expliqué qu'il a fait ce acte parce qu'il voulait sauver les 3000 personnes à Bordeaux, mais il a fait ça avec son cœur allemand et il voulait sauver Bordeaux. Voilà.
Alors, lorsque je l'avais rencontré, il m'avait parlé également qu'il voulait être en paix avec sa conscience de chrétien, parce qu'il était protestant. Il est d'ailleurs enterré au cimetière protestant de Bordeaux. J'avais d'ailleurs assisté à ses funérailles extrêmement émouvantes, où il y avait d'ailleurs un descendant de la famille Moga qui est intervenu, qui a fait un discours. Et il y avait Henriette, d'ailleurs, très digne. Et peut-être pouvez-vous nous parler un petit peu de la personnalité d'Henriette aussi, puisque vous l'avez également côtoyée.
Oui, Henriette, c'est une femme formidable. Aujourd'hui, je suis passé chez elle et normalement, c'était prévu qu'elle va être aussi ici. Mais elle me dit qu'elle est un peu fatiguée parce qu'il y avait trop de journalistes qui demandaient des interviews. Et elle me dit d'envoyer à vous un grand bonjour et qu'elle est désolée qu'elle ne peut être pas ici. Et c'est une femme très forte, je crois. Elle a maintenant 87 ans et c'est elle qui a porté son mari, Heinz, depuis son mari. Il était marié avec elle 60 ans. Et je me souviens quand je racontais le couple la première fois, j'avais un sentiment, il y avait vraiment l'amour entre les deux. Il regardait elle avec... l'amour et elle pareil et bon à la fin c'était pareil, il y avait un moment très touchant, il était au lit, c'est elle qui s'occupait de lui. Avant il était malade, il était hospitalisé, il a perdu 20 kilos. Et après, c'est elle qui récupérait lui, et c'est elle qui s'occupait des lits à la maison. Et il y avait des moments où il était parti, il n'était plus là. Mais il y avait des petits moments où elle a reconnu moi et elle a pris la main de Henriette et elle a dit « Je t'aime ».
Vous avez peut-être un dernier passage à nous lire ?
Oui, peut-être simplement le moment où Eric arrive pour la première fois chez eux. Qu'est-ce que tu en penses ?
Oui.
Peut-être,
oui.
Hein ? Je me suis rendue chez eux, rue Mandron, à Bordeaux. Ils y vivaient relativement retirés dans une maison familiale. Un homme grand et mince m'a ouvert. Il portait une chemise blanche, une cravate gris-argent, une veste tricotée grise et un pantalon sombre. Il devait avoir à peu près 75 ans, mais il faisait plus jeune et semblait très dynamique. Il avait les cheveux rejetés en arrière et seules ses tempes étaient légèrement grisonnantes. Je pouvais imaginer sans peine que les jolies filles de Bordeaux se fussent régulièrement retournées jadis sur le jeune soldat. Ses yeux bleu clair me fixaient comme pour me sonder. J'ai apparemment réussi l'examen puisqu'il m'a proposé d'entrer. Il m'a précédé dans le couloir, un peu voûté sous le poids que les ombres du passé faisaient peser sur ses épaules. Nous sommes entrés dans la salle de séjour aux meubles d'acajou anciens et massifs. Il m'a invité à m'asseoir. Des tasses à café et un gâteau m'attendaient. Puis son épouse est arrivée avec une cafetière. Heinz lui a lancé un regard tendre et me l'a présenté. « Voilà, ma femme Henriette. Une femme de cœur. C'est la meilleure. » Elle était mince et encore très séduisante. Elle avait dû être une beauté dans sa jeunesse. Ses cheveux mi-longs, bouclés, avaient maintenant des reflets argentés. Elle portait une robe foncée de couple simple. J'ai vu comment Heinz la regardait et l'expression de son visage. Il était évident qu'après plus de 4 décennies de mariage, il l'adorait toujours. Il lui devait, semblait-il, beaucoup. Et dans ses yeux à elle, j'ai vu qu'elle aussi continuait de l'admirer. Heinz m'a jeté un regard inquisiteur. « Alors, comme ça, vous voudriez raconter mon histoire dans ce livre ?»« Oui, parce que je crois que beaucoup de gens voudraient savoir ce qui s'est passé autrefois à Bordeaux et comment vous avez sauvé le port de la destruction. »« Alors là, vous vous trompez sur toute la ligne, » a-t-il répondu avec un rire amer. « Car cet épisode continue d'enquiquiner beaucoup de monde. J'étais un ennemi dans cette ville, mais c'est moi qui ai fait le boulot dont aurait dû se charger la résistance. » Il a commencé à parler sur un ton rageur. Sa femme lui a posé une main sur le bras.
Henri, ne t'énerve pas comme ça. Ça fait si longtemps. Plus longtemps que la moitié de notre vie. Sauf que ce qui est vrai doit être apprécié comme tel. Je peux prouver tout ce que j'avance. J'ai tous les justificatifs, tous les dossiers. Venez avec moi. Je l'ai suivi dans sa cave. Il est là. Il est allé vers une grande étagère croulant sous les classeurs. Toute l'histoire est là. Servez-vous, a-t-il dit, encore très énervé.
Nous allons peut-être pouvoir conclure. Donc, on vous remercie d'être venus aussi nombreux pour assister à cette présentation d'ouvrage d'Éric Schack. Il est disponible pour signer ses ouvrages. Et si vous voulez étendre sur le sujet, vous avez également les miens. Donc, vous pouvez lire également, et je me ferai un plaisir aussi de les signer. Mais je vous invite surtout à lire le livre indispensable d'Éric Schack, qui est vraiment un magnifique document humain, historique et littéraire. Voilà, je vous remercie infiniment.